Bonjour Hélène, comment allez-vous?
Ça va bien. Les Trois Accords, vous, est-ce que vous aimez ce groupe?
Un amateur.
Un amateur, je ne le savais pas, mais je l'avais senti. Alors, non, aujourd'hui...
En spectacle, ils sont quelque chose. Il faut dire que c'est un des très bons...
Ah ouais, hein?
En direct, avec une bière dans un bar miteux de région, là, c'est génial.
Ah, pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Même un bar non miteux. Alors, j'ai pensé à vous quand on a annoncé tous les ministres qui faisaient partie de la nouvelle équipe de la CAQ. Il y en a des anciens, il y en a des nouveaux. Et c'est un ancien nouveau, mais c'est la première fois qu'il va occuper ce poste ministre de l'Éducation. Quelle responsabilité pour Bernard Drainville, Alexandre?
Oui, et c'est à la fois une surprise et pas une surprise parce que ce mandat-ci pour le gouvernement va être un mandat de job sale. Il y a du travail très peu sexy et très peu politique à faire, mais en même temps très politique dans le sens qu'il n'y aura pas de pelletée de terre, il n'y a pas de grandes réformes à annoncer. Paul Journet parlait dans la presse, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, samedi dernier, fait une chronique sur Bernard Drainville en tant que tel comme ministre et les défis qui l'attendent. Bernard Drainville, comme vous le dites, Hélène, c'est un jeune nouveau, c'est un jeune vieux ou un vieux nouveau, dépendant comment vous voulez dire, dans le sens où il a déjà été ministre, il a été ministre sous le dernier gouvernement du Parti québécois. On ne rentrera pas dans les affinités, dans l'espèce de triangle amoureux entre la CAQ, Québec solidaire et le Parti québécois, mais Bernard Drainville était ministre d'un ministère dont on oublie presque tous l'existence, qui était les institutions démocratiques ou la réforme démocratique, dépendant comment ça s'appelle, et c'est lui qui avait été en charge du projet de la fameuse charte de la laïcité, une des choses qui a fait tomber, en tout cas qui a divisé la population suffisamment pour que le gouvernement du Parti québécois se fasse montrer la porte en 2013, en 2014. Et Bernard Drainville est un choix qui a été bizarrement reçu. En fait, ça a été reçu avec un peu de consternation dans le milieu de l'éducation parce qu'il y a deux questions que les gens se posent. Pourquoi lui? Et qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est quoi son mandat? C'est quoi le grand projet de la CAQ en éducation? Parce qu'on se rappelle que François Legault a dit tout le long de la campagne que l'éducation serait sa priorité des priorités. Bien, contrairement à 2018, c'est ce que Paul Journet relève, en 2018, la CAQ, la Coalition Avenir Québec est arrivée au pouvoir avec un programme, avec quelque chose à faire. Et ces deux grandes choses-là à faire, et on finit par en faire plus que ça, mais quand même, c'est l'abolition des commissions scolaires, qui se sont transformées en centres de services scolaires, ça c'est fait, et la maternelle 4 ans plein temps universel. Ça, c'est adopté, mais c'est pas fait encore. Mm-hmm. Et Bernard Drainville arrive dans un contexte où il n'aura pas de grandes réformes à faire. Il faut juste qu'il éteigne les feux.
Et c'est pensez-vous que Jean-François Roberge va lui donner quelques conseils?
Je ne sais pas si Jean-François Roberge va même avoir le droit d'aller dans le complexe G. Il a terminé... Il a fait, donnons ça à Jean-François Roberge, il a fait son mandat de ministre de l'Éducation a commencé son premier jour comme député et s'est terminé le jour des élections. Il a été ministre de l'Éducation pendant 4 ans, sans interruption. Il a tout fait ce qu'il avait à faire. Et je suis sûr qu'au sein de la Coalition Avenir Québec, le gars, il a gagné ses épaulettes. Mais
pas assez pour redevenir ministre de l'Éducation.
Et là, je vais vous donner une opinion qui est personnelle. Okay? Mm-hmm. C'est pas quelque chose, mais je ne sais pas qui je lisais en fin de semaine. Une des chroniques que je voulais retenir disait qu'on espérait que Bernard Drainville allait avoir l'autonomie que Jean-François Roberge n'a pas eue. Jean-François Roberge était une belle illustration, mais il n'est pas le premier. La CAQ n'est pas la première à faire ça. Comment l'éducation peut être centralisée au bureau du premier ministre ou comment l'éducation peut être subordonnée à d'autres prérogatives ou à d'autres préoccupations. Durant la pandémie, on a bien vu que l'éducation était menée par la santé publique. C'est la santé publique qui calait les distances dans les écoles, les mesures d'atténuation, le retour en classe. C'est la santé publique qui l'a calé, c'est pas l'éducation. Ben, le problème avec M. Drainville présentement, c'est que si l'éducation est considérée comme elle a été considérée dans le premier mandat de la CAQ, c'est-à-dire comme subordonnée à d'autres intérêts, à un plus grand bien commun, ben M. Drainville va être subordonné à Mme Sonia Lebel et au Conseil du Trésor parce que toutes les solutions aux problèmes que M. Drainville va affronter passent par le chéquier du gouvernement. toutes. Elles passent toutes par là. On ne peut pas faire le tour. Ce n'est pas une question de formation initiale des maîtres ou des enseignants. Ça ne changera rien. Là, il faut qu'ils achètent des profs. Il faut qu'ils achètent des gens à mettre en classe. Ça va coûter quelque chose et vous pouvez être certaine que les syndicats vont, à juste mesure selon moi, faire payer le coût du marché de ce que ça vaut mettre un prof en classe. La vétusté dans les écoles, il n'y a pas d'autre solution que de sortir le chéquier. Et vous pouvez, je peux vous garantir que dans la région de Montréal et dans la région de Québec, le milieu de la construction, le marché de la construction va faire payer le gros prix pour ça. Alors, si M. Drainville veut faire quoi que ce soit dans le cahier de mandat qu'il a eu...
Ben oui, ça a l'air que c'est un épais cahier de briefage de 5 pouces.
Le cahier de briefage, c'est juste l'état de la situation. Ce que j'aimerais voir, moi, c'est sa lettre de mandat, la lettre que lui écrit le premier ministre pour dire « Voici votre portfolio et voici vos priorités. » D'ailleurs, c'est probablement ce que relève Paul Journet, de dire que c'est la construction et la rénovation d'écoles et la situation de la pénurie des enseignants. Ben, c'est là qu'on va voir si M. Drainville est vraiment un facteur. Parce qu'il y a encore une fois deux possibilités. Il y a plus que deux possibilités, mais je vais caricaturer. La première, c'est que M. Drainville a les coups d'effrayant chez l'autonomie, évidemment en respect de la collégialité de ses collègues et de la solidarité gouvernementale et blablabla, mais a les coups d'effrayant pour défendre son ministère et obtenir les ressources nécessaires pour livrer ses mandats. La deuxième situation, c'est qu'il est un peu ce qu'on a accusé Jean-François Roberge d'être, c'est-à-dire un faire-valoir, c'est-à-dire un homme de paille pour des politiques qui se décident réellement au Conseil des ministres ou en santé publique ou encore au bureau du premier ministre. Et dans le deuxième cas, ben, si on avait juste besoin de faire valoir, ça peut être M. Drainville, ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être le très joli bagel de mon voisin, ça change absolument rien. Mm. Par contre, si on était allé chercher Bernard Drainville, je vais parler de ce que j'ai entendu parler de lui en 2012-2013, comme quoi c'est quelqu'un qui a de l'envergure, de la prestance, de la vision, qui est capable de rallier les gens et qui est capable de faire avancer les dossiers. Un ministre, parce que pour être ministre, on n'est pas obligé d'être expert. Il faut être expert de la politique pour être ministre, pas nécessairement être expert du milieu dans lequel on intervient. C'est pour ça qu'un Legault, un François Legault, une Pauline Marois, un Claude Ryan ont été ministre de l'Éducation, ministre de la Santé, ministre de ci, ministre de ça. Eh bien, si c'est cette personne-là qu'on est allé chercher, cette personne dont la rumeur me présente, parce que moi, je n'ai jamais rencontré Bernard Drainville de ma vie, là, si c'est cette personne-là, ce ministre autonome, capable et volontaire qui sont allés chercher, il y a peut-être une chance qu'il serve à quelque chose. Dans le cas où c'est juste un faire-valoir, bon, on aurait pu mettre, je ne sais pas, moi, j'ai devant moi un beau petit globe terrestre des années 30. On aurait pu mettre ça, tant qu'à ça, ça coûte moins cher, puis il ne prend pas une limousine, mon globe terrestre, se déplace.
Et Paul Journet écrit, le plus gros piège pour M. Drainville serait de jouer au Joe connaissant. Yes. C'est une source qui lui a confié ça. Avant de proposer des solutions, il faut prouver sa maîtrise des dossiers.
Oui, et au Québec, lorsque vous devenez ministre, les 100 premiers jours, on dit souvent dans d'autres régimes gouvernementaux que dans d'autres juridictions que les 100 premiers jours sont les plus productifs. Au Québec, les 100 premiers jours que vous passez à la tête d'un ministère, c'est pour asseoir votre légitimité, non pas auprès de la population, ça c'est fait, non pas auprès de l'Assemblée nationale, ça c'est fait, mais auprès de la machine gouvernementale sans laquelle un ministre ne peut absolument rien faire.
Mm-hmm. Alors, c'était bien intéressant, cher Alexandre Beaupré-Lavallée. Vous êtes professeur en administration de l'éducation à l'Université de Montréal. Merci de nous avoir parlé de Bernard Drainville, nouveau ministre de l'Éducation, à travers le texte « Un émotif face à la machine » de Paul Journet qui a été publié le 22 octobre dernier. Merci, Alexandre.
Merci, à lundi prochain.
Oui.